sa vie.
Choisir la vie.
Choisir ensemble.
Aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble.
Bonjour à tous et bienvenue à ces rendez-vous psychologiques, amis auditeurs, auditrices de la fréquence maternelle. Bonjour papa André et Tandala.
Bonjour maman Régine et bonjour à tous nos chers auditeurs.
Merci à Clément Moulopo qui est à la réalisation. Aujourd'hui, on va parler de la crise du jeune âge. Le sous-thème de ce jour, le grand thème, c'est donc la crise dans la vie de couple comme opportunité de croissance. On avait commencé il y a 2 semaines passées. Et là, le sous-thème d'aujourd'hui, la crise du jeune âge adulte. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Avant tout, essayons de rappeler l'essentiel de ce que nous avons dit la fois dernière pour mieux comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. De manière générale, le terme de crise nous est habituel. Il désigne une situation difficile pouvant avoir des conséquences fâcheuses, irréversibles, aussi bien pour la vie d'un individu que d'une communauté. Pour cette raison, se retrouvant dans tous les domaines de notre vie, le terme de crise a dans l'imaginaire collectif une connotation négative. On parle alors d'une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique, une entreprise en crise, une crise diplomatique, une crise au sein d'un couple et ainsi de suite. Mais en psychologie, le terme n'implique pas forcément l'idée de quelque chose de négatif. Il désigne un temps transitionnel où dans le développement d'un individu ou d'un groupe, on est confronté aux difficultés inhérentes au passage d'une étape à une autre. De ce fait, du point de vue de la psychologie, une crise est comme une voie obligée dans le processus de maturation. Il n'y a pas de croissance qui ne passe par une crise. Autrement dit, sur le plan individuel ou relationnel, tel que dans la vie de couple, un temps de crise est un temps où l'on est censé redéfinir son identité, ses objectifs, ses raisons d'être, afin de mieux organiser et orienter la vie. Un temps de crise est donc une opportunité de croissance. Par ailleurs, il faut noter que tout au long de sa vie, la personne humaine connaît plusieurs crises psycho-affectives qui sont autant de moments charnières de son développement et qui ont sûrement des répercussions sur toute sa vie, notamment sa vie de couple. C'est autant dire que les crises que nous pouvons connaître dans notre vie de couple peuvent être une expression de nos crises psycho-affectives. Après avoir échangé la fois dernière sur les causes et les différents modes d'expression de crise dans la vie des couples, nous nous proposons aujourd'hui de nous focaliser essentiellement sur 2 questions. Première question. Quelle est la crise typique du jeune âge adulte pouvant avoir des répercussions sur la vie des couples? Deuxième question. Comment un couple confronté à une telle crise doit-il se comporter pour qu'un tel moment soit une opportunité de croissance et d'épanouissement? Pour commencer, rappelons que le jeune âge adulte est le temps qui vient juste après l'adolescence et s'étend jusqu'à l'âge d'environ 35 ans. La grande problématique de l'âge adulte moyen pourrait se ramener à 2 questions suivantes. Comment organiser et orienter ma vie pour que celle-ci ait un sens? Avec qui dois-je faire ma vie? Il faut dire qu'à l'âge de 20 ans environ, on est censé être suffisamment mature pour mettre assez d'ordre dans sa tête et ses relations avec son milieu de vie. On devrait avoir déjà fait une option fondamentale pour ce qui concerne l'orientation générale de sa vie. Lorsque, grâce à une adolescence qui aura été globalement positive, on a réussi à donner des réponses concrètes à ses interrogations, alors on entre dans la vie adulte avec une certaine maturité. Mais lorsqu'on n'a pas réussi à répondre de façon satisfaisante à ce besoin d'orienter sa vie, cela créerait un certain malaise qui pourrait se traduire par des attitudes et des comportements ne favorisant pas cette quête du sens de la vie et ne tenant pas compte du désir de partager sa vie avec une personne ou un groupe de son choix. Et tôt ou tard, cela aura une influence négative aussi bien sur la vie individuelle que sur les relations interpersonnelles. Pour savoir si, oui ou non, on est plus ou moins sur la bonne voie, il faut connaître les caractéristiques de cette étape de la vie. Alors, sur le plan psychologique, quels sont les traits typiques du jeune âge adulte, l'âge allant de 18-20 ans jusqu'à environ 30-35 ans? Quelles sont les grandes caractéristiques psychologiques de cet âge? Première caractéristique. Le passage de simples camaraderies à des véritables amitiés et intimités. À cet âge, les relations ne sont plus basées sur le mode de camaraderie juste pour le sport, l'exploration de l'environnement ou la découverte de l'autre sexe comme pendant l'adolescence. À vrai dire, l'adolescence est le temps des découvertes. On découvre son corps, sa sexualité sous le mode adulte, on découvre son environnement avec les yeux d'adulte, on découvre sa sexualité et l'autre sexe comme par essai et erreur. Par contre, le jeune âge adulte est le temps des véritables amitiés, véritables amours, basés sur le partage des expériences de vie et des principes moraux et spirituels. Pendant cette période, on devient progressivement capable d'une véritable intimité dans la responsabilité et le respect de l'autre. Il ne s'agit pas de l'intimité au sens d'une simple union corporelle, mais plutôt au sens des confidences et de réciprocité des confiances. L'autre n'est pas aimé seulement pour ses qualités physiques, mais surtout pour ses qualités psychologiques, morales et spirituelles. Ce n'est donc plus le temps des soubresauts d'humeur et des caprices typiques de l'adolescence, mais un temps où les relations interpersonnelles devraient rimer avec confidence, solidarité, engagement, fidélité. Deuxième caractéristique, la stabilité de relations avec les parents et d'autres figures d'autorité. Si la traversée de l'adolescence a été globalement bonne, avec le jeune âge adulte s'amorce un nouveau chapitre de l'histoire de relations parents-enfants. À cet âge, on devrait se montrer de plus en plus réfléchi et responsable. On gagne en confiance vis-à-vis des parents et de l'entourage en se montrant plus sérieux et régulier dans ses engagements. Cela devrait se vérifier dans tous les groupes de vie, tels que la famille, la CVB, le quartier, la paroisse, à l'université, etc., etc. Dans les groupes paroissiaux, par exemple, pour les catholiques, on devient encadreur des jeunes chez les Bilingué à Mwinda ou les Kizito à Marité. Cette intégrité progressive de la personnalité est rendue possible par le fait qu'à cet âge, l'individu commence progressivement à se défaire de l'idéalisme, de l'extraversion et de l'hypocrisie entre guillemets typique de l'adolescence. Et aussi par le fait que, de par sa propre expérience, l'individu comprend que la vie est comme un véritable rendez-vous du donner et du recevoir, et que les qualités et les limites de caractère font partie intégrante de l'histoire de tout homme. Troisième caractéristique, la consolidation du caractère. Pendant le jeune âge adulte, on devrait assister à un passage progressif de l'état de l'adolescent extraverti et émotionnellement instable à une personne de plus en plus posée et réfléchie. Ainsi donc, les principaux traits de caractère de personnalité se précisent et se confirment. Tout ce que nous venons de dire concerne les côtés positifs de cet âge. Et ce côté positif est appelé capacité d'intimité, c'est-à-dire capacité de partager sa vie avec une personne aimée dans la sincérité, la franchise, la fidélité, la réciprocité et la confidence. Alors, qu'en est-il du côté négatif? Eh bien, le côté négatif constitue ce qu'on appelle l'isolement affectif. Cet isolement affectif peut se manifester par les traits suivants. Difficulté d'avoir des engagements sérieux, fidèles et durables dans les relations interpersonnelles. Tendance à mener une vie de compromission, permanemment en contradiction avec ses valeurs, vivre dans le mensonge, l'infidélité permanente et continuelle envers soi-même, envers les autres, son congé notamment, sa famille, son groupe d'appartenance, etc., etc. Incapacité d'une bonne vie de couple dans le mariage. Donc, c'est l'incapacité de tomber véritablement amoureux de l'autre dans la confiance et la confidence, dans le respect et la responsabilité envers son conjoint, avec le souci de partager à fond sa vie avec ce dernier. Irresponsabilité de se manifestant par l'incapacité d'avoir un projet de vie et des objectifs précis pour lesquels on s'investit à fond et on travaille avec dévouement et abnégation. On connaît de jeunes gens et jeunes filles qui montrent un sens très peu développé de responsabilité, si bien qu'ils restent chez leurs parents même au-delà de 40 ans. On a étudié, on a son diplôme, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas. On a des amis, on a des concubines, des amants à gauche à droite, mais on n'a pas de fiancé reconnu. On vit comme ça. Tout cela, c'est donc un problème de manque ou d'incapacité d'intimité. Alors, cela dit, il faut donc reconnaître que nous assistons presque au quotidien à des comportements qui sont des véritables symptômes de perturbations affectives, donc des véritables crises psycho-affectives. On peut ainsi arriver au mariage dans cette cacophonie psycho-affective avec pour conséquence une vie de couple déséquilibrée et tourmentée, irresponsabilité. Étant donné tout cela, que faut-il faire pour que le temps de crise constitue une opportunité pour rebondir et aller de l'avant, au lieu que ce soit une fatalité qui condamne l'équilibre et l'épanouissement du couple? Comment gérer une crise pour qu'un couple confronté à de tels problèmes soit vraiment un couple qui avance quand même? La vérité est que la gestion d'une crise psychoaffective dépend au moins en partie du degré de sa gravité. Il y a des cas où il faut absolument se faire aider par un spécialiste de santé mentale, notamment un psychiatre ou un psychologue. Dans cet ordre d'idées, on parle de thérapie de couple ou même de thérapie de famille. Mais au cas où ce n'est pas aussi grave que ça, on peut faire un travail sur soi-même et tâcher de mettre de l'ordre dans sa tête, dans sa vie et sa relation avec son conjoint. Alors, voici donc quelques propositions sur la manière dont on peut essayer, n'est-ce pas, de travailler sur soi-même. Je vous propose certaines choses, deux, trois peut-être. Premièrement, commencez par travailler sur votre motivation de changement. Vous devez savoir qu'il est impossible d'améliorer votre conduite ainsi que votre relation à votre conjoint si vous n'êtes pas motivé. Pour y parvenir, identifiez bien les principaux objectifs de votre vie et prenez conscience du fait que vos problèmes récurrents avec votre conjoint sont un véritable empêchement pour atteindre ces objectifs. Deuxièmement, cultivez la capacité d'intimité. Pour commencer, vous devez considérer que l'intimité avec votre conjoint va bien au-delà des simples relations sexuelles, permettez-moi. En fait, le mot « intimité » vient de l'adjectif latin « intimus », qui est le superlatif de intérieur, intérieur. Donc, intimus signifie alors le plus intérieur, le plus profond. Cela revient à dire qu'être en intimité avec quelqu'un, c'est finalement entretenir une relation tellement privilégiée qu'on participe à sa vie la plus privée. C'est appartenir au cercle le plus fermé de ceux et de celles qui partagent sa vie dans ce qu'elle a de plus profond et personnel. La capacité d'intimité naît de la confiance en soi, l'estime de soi, la connaissance de soi et le désir d'un enrichissement mutuel avec l'autre dans ce qui fait sa singularité, c'est-à-dire ses qualités et ses limites. Troisièmement, posez-vous régulièrement les questions suivantes et essayez d'y répondre sans complaisance, s'il vous plaît. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour votre introspection. Est-il possible que mes différends, donc mes problèmes avec mon conjoint, que dans ces problèmes-là, j'ai toujours raison et qu'il ait toujours tort? Puis-je vraiment dire que ma relation à mon conjoint n'est pas superficielle, étant donné que je lui cache beaucoup de vérités sur ma vraie vie? Mes prises de position vis-à-vis de mon conjoint sont-elles influencées par les valeurs que nous devons avoir en commun, ou plutôt par les limites de mon caractère, certaines insatisfactions affectives au sein de notre relation, ou peut-être par mes croyances culturelles ou autres? Quatrièmement, approfondissez votre spiritualité. Il s'agit ici de répondre à la question suivante. Quels sont les efforts concrets que je fournis chaque jour pour vivre mes valeurs, notamment la vérité, l'empathie, la tolérance, la loyauté, le pardon, le respect de l'autre, le sens des responsabilités, la cohérence de vie, ainsi de suite? Cinquièmement, enfin, ici, je voudrais vous proposer un petit exercice d'introspection sur la qualité de votre intimité avec votre conjoint. C'est un exercice qu'on fait souvent, on peut faire normalement dans un cadre de thérapie personnalisée. Supposons que votre vie soit un train, je dis bien un train, avec 5 wagons de différentes classes, allant du plus luxueux au plus économique. Les différents wagons sont occupés par les différentes personnes que vous connaissez et qui partagent avec vous votre vie, de loin ou de près. Le niveau de luxe de chaque wagon correspond au degré de votre amitié ou votre intimité avec les personnes à bord. Alors, sincèrement, dans quelle classe se trouve votre conjoint? Est-ce dans la première, la deuxième ou la quatrième? Sincèrement. Et de tous les voyageurs, à qui seriez-vous prêt à laisser la conduite de votre train à votre place, puisque vous êtes certain que celui-là vous connaît tellement bien qu'il ferait tout pour la bonne marche du train, exactement comme si c'était vous-même? Est-ce votre mère, votre père, un ami, votre curé peut-être, votre pasteur, ou plutôt, ça peut arriver, votre maîtresse ou votre amant? Il y a des gens qui sont plus en harmonie avec leur amant, leur maîtresse, que leur conjoint, leur épouse, époux légitime. En conclusion, si votre couple est mis à rude épreuve à cause des problèmes d'intimité, de manque de transparence et des gros mensonges récurrents, cela serait probablement dû au fait que au moins l'un de vous deux aurait des problèmes psychologiques relatifs au jeune âge adulte, c'est-à-dire que malgré son âge chronologique peut-être, 40, 50 ans, je ne sais pas moi combien, son niveau de maturité affective est celui d'une personne de l'âge de 20-35 ans. Au lieu de se caractériser par l'intimité, il se caractérise plutôt par l'isolement affectif. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Papa André. Et Tandala Clément va nous proposer un chant. Merci à Clément pour ses chants. 081-99-66-098. Nous parlons de la crise du jeune âge adulte. Dans cette émission, voici mon problème. Nous avons suivi Papa André. À présent, vous avez la parole pour poser vos différentes questions. Je rappelle le numéro 081-99-66-098. Bonjour Papa André. Bonjour à toute l'équipe de l'émission. Merci de parler du jeune âge adulte. Pourquoi parler du jeune âge? Est-ce qu'il y a un vieux âge adulte en psychologie? Et quelles sont les caractéristiques de ces jeunes dans la catégorie jeune âge? Benjamin.
Merci beaucoup pour la question. La dernière étape du développement psychosocial, c'est l'âge adulte tardif qui commence autour des 60-65 ans. Donc, ne vous en faites pas, il y a aussi l'âge adulte moyen qui vient après l'âge adulte, jeune âge adulte. Les caractéristiques du jeune âge adulte, on les a données, c'est l'intimité ou le manque, l'incapacité d'intimité, l'isolement affectif, l'intimité comme l'ouverture, la disposition à accepter l'autre, à se perdre dans l'autre, comme on dit. C'est ça la grande caractéristique psycho-affective du jeune âge adulte, comme nous l'avons dit dans le petit exposé.
Bonjour Papa André. Permettez-moi de revenir sur les thèmes de la fois passée où vous avez parlé de cette crise au sein d'un couple. Que dire d'un couple où la femme ne reconnaît pas ses erreurs, mais attend à être comprise et comment gérer la situation?
Ça peut être un problème de caractère, on va parler de l'ego. Quand on a un ego, on va dire, surdimensionné, on va dire gigantesque, on se prend beaucoup plus important qu'on l'est en réalité, donc on peut en arriver là. Alors, mais ça peut être aussi un problème de culture. Il y a des cultures où c'est la femme qui doit tenir la barre, c'est elle qui doit ordonner les choses dans la maison, c'est à elle que revient la dernière décision. Ça peut être du fait que la femme est influencée par sa culture. Alors, c'est question de faire une analyse sans complaisance, essayer de comprendre d'où viendrait ça. Est-ce seulement un problème de caractère ou un problème de conviction à caractère culturel? C'est un peu ça. On peut se faire aider par un psychologue, par son pasteur, son curé, par des amis, essayer de résoudre les problèmes pour le bien du couple.
Merci pour l'émission, cher Papa André. Salutations à Maman Régine. Juste savoir, dans cette catégorie de jeune âge adulte, entre hommes et femmes, y a-t-il des différences en psychologie ou bien tout se passe de moments ou des périodes normales, c'est-à-dire pendant la crise de cette période? Est-ce que les jeunes filles et les jeunes garçons supportent ou bien traversent les mêmes crises de la même manière ou il y a des différences? Si oui, lesquelles?
Oui, tout le monde, homme ou femme, tout le monde connaît ces différentes étapes qui s'accompagnent des différentes crises. Mais une femme ne fera pas une crise de la même manière qu'un homme, parce qu'il y a ce qu'on appelle le tempérament, ça veut dire l'expression de notre personnalité, ou si vous préférez, de notre caractère, sur un fond de notre biologie. Alors on parle des hormones, n'est-ce pas? Donc un homme n'a pas le même ou la même quantité d'hormones qu'une femme dans un cas bien déterminé. Donc une femme va manifester cette crise à sa manière, un homme aussi à sa manière, mais c'est la même crise, la crise d'intimité ou d'isolement affectif. Donc c'est l'étape du jeune âge adulte. Tout le monde, homme et femme, de la naissance jusqu'à la fin de la vieillesse.
Bonjour papa, à quel âge s'arrête la jeunesse?
La jeunesse, en principe, ça s'arrête sur le plan biologique autour de 40 ans. C'est là que commence, à cet âge-là que commence notre vieillissement. On peut dire ça comme ça. Et sur le plan psychologique, ça s'accompagne aussi des attitudes et des comportements typiques de cette période-là, qu'on pourrait voir si Dieu nous en donne la grâce lors de la prochaine causerie. La deuxième étape de l'âge adulte, qui est l'âge adulte moyen.
Voilà. Bonjour Papa André, bonjour Maman Régine. J'ai une seule question, papa. Parlant de cette catégorie de jeune âge, une préoccupation sur les jeunes qui se comportent comme des adultes, qui sont entourés des adultes, qui ne fréquentent que des adultes et s'habillent comme les adultes. Permettez-moi de revenir, car souvent, je suis visée parce que, oui, je parle de moi. Je me sens à l'aise lorsque je suis entourée d'adultes et je m'habille comme eux. Est-ce qu'il peut y avoir un malaise ou autre chose en tant que psychologue?
Ah, merci. Bon, c'est une question assez complexe. Apparemment banale, mais c'est une question assez complexe. D'entrée de jeu, je dirais qu'il n'y a pas, objectivement parlant, il n'y a pas un mal à s'habiller quand on est jeune, je comprends, comme adolescent. Il n'y a pas un mal à s'habiller comme une dame de 25 ans, de 5 ans. Non. Quand vous êtes invité, quand vous allez au culte, à la messe par exemple, il faut une certaine, comment on appelle ça, donc une certaine façon de s'habiller. Vous devez être décent dans votre tenue. Vous ne pouvez pas vous habiller comme si vous alliez dans une boîte de nuit. Non, ben, il faut avoir. Mais ça devient un problème. C'est là que se commence la complexité de votre question, madame. Le problème, c'est que quand vous êtes adolescent, vous pensez que les adolescents qui s'habillent, n'est-ce pas, avec cette envolture tout à fait de l'adolescence, vous pensez que c'est intrinsèquement mauvais. Je ne dis pas qu'il faut s'habiller. Excusez-moi, hein, c'est quelque chose, un mot qui a fait la une de nos médias pendant toute une période. Vous habillez comme Alaoudjan, excusez-moi. Mm-hmm. Ça devient un problème. Mais il n'y a pas un mal à s'habiller comme une adolescente parmi les adolescentes, les adolescents, un adolescent parmi les... Mais ça dépend de la manière de s'habiller. Il ne faut pas exagérer d'un côté comme de l'autre. J'espère avoir compris la question.
Donc, rien à voir avec un souci psychologique, parce que c'était ça un peu
non.
aussi la préoccupation
non, non.
de notre...
Mais est-ce que c'est très complexe cette question? Il y a des gens qui sautent leur adolescence. Vous avez compris? Et même à 50 ans, l'adolescent peut vous rattraper. Vous avez compris? Vous n'avez pas appris à... Vous êtes une jeune fille. Au nom d'une certaine éthique, je n'ai rien contre. Vous pensez que mettre du rouge à lèvres, c'est terrible. Vous avez compris? Alors que ça fait partie de l'expression de votre féminité, tout bien pesé. Vous avez compris? Alors vous pensez qu'il faut vivre à 50 ans, ne vous étonnez pas que vous allez commencer maintenant à faire l'adolescente en cet âge.
C'est un peu se rattraper.
Voilà.
Autrement dit.
Voilà.
081-99-66-098. Merci, papa, pour cette émission, surtout pour la question de notre auditeur ou auditrice sur les jeunes qui se comportent comme des adultes, parfois même des adultes qui se comportent comme des jeunes. Merci beaucoup. Nous comprenons par là qu'ils sont en train de rattraper le temps passé. Ils n'ont pas profité de leur jeunesse. Voilà, étant âgés ou adultes, ils se mettent à reproduire ce que les jeunes font. Mais est-ce que, à l'inverse, ce n'est pas un souci psychologique? Car lorsqu'on voit des dames ou parfois même des mémés qui se comportent, qui s'habillent en collant, ça inquiète un peu votre mot.
Merci.
C'est maman Anne-Marie.
Merci. C'est la même préoccupation. Mmh. Alors, il y a deux notions qu'il faut, je crois, souligner ici. Il y a la notion de fixation et la notion de régression. Je crois que nous en avons parlé la fois dernière. Qu'est-ce que c'est qu'une fixation? Une fixation, c'est le fait que pendant le processus de maturation, n'est-ce pas, pour un problème donné, un individu, au lieu de passer à une autre étape, à un autre âge psychologique, reste coincé à une étape donnée. Donc, vous avez déjà 20 ans, au lieu d'adopter des attitudes et des comportements universellement reconnus comme typiques, caractéristiques des individus de votre âge, vous êtes encore avec des comportements et des attitudes d'une jeune adolescente de 12-13 ans. Ça, c'est une fixation. Vous avez compris?
Oui.
Ou bien, vous êtes déjà à 20 ans, 35 ans, au lieu d'adopter ce comportement parce que vous avez eu un problème, un traumatisme, vous rechutez dans votre progression psycho-affective, ça c'est la régression. Alors, des dames qui ont 50 ans, mais qui s'habillent, qui font de leur façon de s'habiller comme des jeunes filles de 13 ans, ça ne va pas. Ça c'est une régression. Alors moi, écoutez, je vais vous dire un cas dramatique. Une jeune dame d'environ 35 ans a perdu un être cher. Vous avez compris? Suite à cette perte-là, elle se retrouvait en train de mouiller ses couches. Ça veut dire quoi? Très probablement un cas de régression. Donc, le choc a été tel qu'il est revenu, psychologiquement parlant, à son enfance. C'est aussi une régression. Donc, ne vous étonnez pas qu'une femme de 5 ans, un monsieur de 60 ans ait des comportements typiques d'un adolescent. Ça peut arriver, c'est un souci.
Nous parlons du jeune âge adulte. Dans cette émission, voici mon problème. Écrivez-nous au 081-99-66-098. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler d'ailleurs sur les mêmes numéros. Nous allons vous recevoir. On va prendre aussi ces messages. Bonjour, maman Régine. Bonjour, papa André. Merci pour cette émission. J'aimerais savoir, la plupart des parents ou des mamans précisément habillent leurs enfants de manière indécente. Et ces enfants grandissent comme ça et ne sachant pas bien s'habiller, couvrir le corps. Est-ce que c'est c'est un souci, non, c'est un souci psychologique pour ces mamans qui n'apprennent pas des bonnes valeurs aux enfants dès les bas âges, car une femme qui sait couvrir son corps, cela commence dès les bas âges.
Merci beaucoup. Ne restons pas là à épingler seulement les mamans, même les jeunes gens. Vous connaissez ce qu'on appelle, je ne sais pas si je suis déphasé ou taille basse.
Oui.
Vous avez compris?
Oui, oui.
Et les parents laissent comme ça. Mm. Je vois des jeunes collégiens, lycéens, n'est-ce pas, qui vont à l'école, voilà. Pantalon, taille basse. Mm. Ils passent, ils entrent en classe comme ça. Écoutez, nous sommes dans quel pays? Vous savez que ce jeune homme-là, demain pourrait être un député, un commissaire, un médecin, et vous ne lui inculquez pas les vraies valeurs citoyennes. Donc les femmes doivent s'habiller convenablement, les hommes aussi. Et c'est un souci, n'est-ce pas, qu'une dame habitue sa fille à s'habiller, on va dire, de façon indécente. Ce n'est pas bon. Vous avez compris.
Oui. Voilà, nous continuons donc à vous recevoir au 081 99 66 0 98. L'émission est en direct. Posez vos questions. On va prendre un autre message. Merci pour votre émission. Parce que vous conseillez bien. Merci pour votre émission. C'est le message de
l'auditeur
ou auditrice. Voilà, 081 99 66 0 98. Vous nous suivez de partout. On va continuer comme ça à prendre vos questions. Il y a encore un autre message. Bonjour, Papa André. Qu'est-ce qui arrive lorsque cette période de croissance est ratée? Comment se rattraper? Car il y a des valeurs qui ne se rattrapent pas.
Bah. Écoutez, des valeurs qui ne se rattrapent pas, ça reste à démontrer. On peut toujours se rattraper. Voilà pourquoi les psychologues parlent de thérapie, n'est-ce pas? Les théologiens parlent de conversion, n'est-ce pas? Donc, c'est dire que c'est irrattrapable, je ne pense pas. Il y a toujours possibilité de récupérer certaines choses. Mais l'échec de la traversée de cet état, c'est ça, l'isolement affectif. Donc, quand vous remarquez que vous avez du mal à avoir des intimités, intimité au sens le plus sain, le plus profond, ça veut dire la capacité de se laisser toucher par l'autre dans votre vie privée. Quelqu'un en qui vous avez confiance, que vous estimez, avec qui vous voulez partager votre vie, tel que votre époux, votre épouse, si vous avez du mal, vous avez compris, vous avez du mal à faire ça, alors ce que vous avez, pourriez vous faire des soucis. Donc, faites-vous aider, travaillez sur vous-même. Peut-être nous l'avons souligné dans le petit exposé. Il faut cultiver vos valeurs, votre spiritualité, vous faire aider, etc. etc.
081 99 66 0 98, vous suivez l'émission, voici mon problème. Bonjour maman Régine et papa André, juste vous remercier pour l'émission et signaler que en Afrique, j'ai comme l'impression que des jeunes restent enfants, vu la situation du pays, et ils restent éternels enfants dans le foyer des parents. Est-ce que cela n'a pas d'impact au niveau de la psychologie, puisque on rentre à la maison, on trouve les repas servis, on n'a pas le courage d'aller se chercher, et puisque la chambre est disponible, son lit d'enfance jusqu'à 35 ans est disponible.
Ben, c'est ça, ben, moi je frissonne un peu, dire qu'en Afrique, non, c'est un problème universel. On a connu, vous allez en Europe, vous trouverez des témoignages, il y en a, hein. Vous trouverez des vieux garçons de 35 ans qui passent la nuit dans la chambre des parents, dans le même lit. Pourquoi? Parce que c'est un bébé. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, excusez-moi, une dame qui demandait à son fils d'environ 18 ans, « Viens chérie, je vais te raser. » Et le monsieur s'apprêtait un menton comme ça dans maman. Pourquoi? Parce que c'est un bébé, vous avez compris. En Occident, par exemple, vous trouverez des jeunes gens qui vont tabasser, malmener, parfois même éliminer physiquement leurs parents. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent hériter de biens. Mais il ne fait ce vieillard-là ne fait que perdurer. Mais quand je vais entrer en héritage, eh ben on va l'éliminer. Ça, c'est ça l'égoïsme de l'enfance. Vous avez compris ? Donc, l'immaturité affective n'est pas qu'africaine. Elle est humaine et donc dans toutes les parties du monde, chaque partie avait ses problématiques, etc. Mais l'immaturité, comme la maturité, c'est un problème humain et ça se retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les parties du monde.
Voilà, il y a aussi un autre message qui s'ajoute. Bonjour maman et papa André, comment on peut connaître que cet enfant est à l'âge d'adolescence?
Comment reconnaître que cet enfant est à l'âge d'adolescence? Alors, c'est une très bonne question. L'adolescence est un moment charnière, donc une transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et en tant que moment charnière, elle se caractérise par ce qu'on appelle métamorphose, donc des changements. Les changements à deux niveaux. Premier niveau, anatomique et physiologique, je veux dire biologique si vous voulez. Donc c'est l'apparence de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. La barbe, etc., etc. pour le jeune homme et le bassin, le sein pour la jeune fille. Ça c'est la puberté, ça c'est le premier changement. Si vous voyez votre fille avec un bassin qui commence à s'élargir et la poitrine qui prend de plus en plus la forme d'une dame, dites-vous que ma fille devient pubère. Sur le plan psychologique, c'est le changement au niveau psychologique et mental, intellectuel, c'est ce qu'on appelle l'adolescence. Alors, le fait que l'enfant commence à prétendre un peu plus d'autonomie, il vous semble de plus en plus têtu, de plus en plus remonté, changement d'humeur comme ça à l'improviste. Il se permet beaucoup de choses, contrairement à ce qu'il faisait avant. Sachez qu'il y a des transformations intellectuelles, psychologiques dans la vie de votre enfant. Donc ça, c'est l'adolescent. Donc, de par le physique, l'anatomie et le comportement, vous saurez si ou non votre enfant, votre fille est déjà adolescente ou quoi.
On va écouter Joseph Demery.
Bonjour, maman Régine. Bonjour, très cher papa. Et merci beaucoup pour cette très belle émission. Hein? La crise du jeune âge adulte. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner tort aux adultes qui sont devenus presque... qui ne sont plus des modèles pour... aider justement ces jeunes-là qui sont dans cette catégorie d'âge de passer au jeune âge adulte jusqu'à atteindre l'âge adulte. Les jeunes qui sont dans cette catégorie d'âge sont voués aujourd'hui apparemment à une transition chaotique et indéfinie justement parce qu'il leur manque l'appui, Tcheyemenu, comme on appelle en Tchiluba, un endroit où s'appuyer. Un endroit sur lequel ils peuvent s'appuyer parce qu'ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas de repères aujourd'hui, ils n'ont pas de modèles aujourd'hui, ils n'ont pas la structure nécessaire pour vaincre leur crise. D'où moi je trouve que nos ancêtres quand même, que j'aime beaucoup, dans leur sagesse avaient déjà des rituels traditionnels qui essayaient d'orienter le jeune âge adulte à l'âge adulte, tel que, par exemple, l'isolement du jeune homme, du jeune âge adulte, dans ce qu'eux, ils appelaient à leur époque l'ikikumbi, hein, entrer dans l'ikikumbi afin de forger leur identité. Certains ancêtres allaient même plus loin pour proposer des épreuves aux jeunes adultes, comme par exemple la chasse au lion, chez les tribus de Maasai, ou faire des tatouages douloureux sur le corps de la jeune fille adulte afin d'identifier son endurance, etc., etc. Et ça les aidait à passer du jeune âge adulte à l'âge adulte. Bref, tous ces rites-là de nos ancêtres, apparemment violents et dangereux à l'œil du psychologue que vous êtes, mais qui servaient quand même à marquer clairement le passage du jeune âge adulte à l'âge adulte, est-ce que tous ces rituels ou ces rites sont-ils permis en psychologie ou plutôt ce sont des épreuves physiques inacceptables à l'œil du psychologue que vous êtes? Et pour finir, je me pose la question, doit-on vraiment parler de la crise du jeune âge adulte ou plutôt d'une transition ou d'un changement normal? Parce que je trouve comme si vous réduisez dans vos dires, vous réduisez le jeune âge adulte qu'à la seule crise que cet âge traverse, sans tenir compte qu'il s'agit aussi quand même d'une sorte de transition ou même d'un changement qu'implique ce passage et qui est tout à fait normal et logique, cher papa.
Merci. Il a fini son intervention. Merci à Joseph Desmarais.
Merci beaucoup. Alors, après ce discours fleuve de Joseph Desmarais, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, le soubassement de votre question, de votre interrogation. Vous donnez l'impression, si j'ai bien pigé en tout cas, vous donnez l'impression que du côté de la psychologie, le terme de crise est une chose négative. Non. Voilà pourquoi vous demandez, vous soutenez que la crise du jeune âge adulte se réduit au fait que les jeunes n'ont pas de modèle. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une façon, on va dire, erronée de comprendre les choses. La crise, c'est un changement de tactique, donc de repère, voilà. C'est un temps transitionnel où l'individu, grâce à la maturation biologique, grâce à la maturation cognitive, l'enfant ou le jeune individu comprend que je dois commencer à me comporter autrement. Alors, le passage d'un modèle de comportement d'avant à un modèle de comportement, on va dire, nouveau, eh bien, cette tension-là, qui sera une tension intérieure avec des répercussions sur ses interactions avec l'environnement, c'est ça la crise. Quand un enfant de 12 ans commence à voir qu'il développe ce qu'on appelle la pilosité, il a la barbe, le poil dans le corps, eh bien, la voix devient plus grave, eh bien, c'est parce qu'il y a une chimie dans son corps qui fait qu'il y ait ce changement-là. Alors l'enfant comprend qu'il doit commencer à se comporter non plus comme un enfant, mais comme une personne adulte. Cette tension-là, intérieure, extérieure, c'est ça la transition, c'est ce qu'on appelle en psychologie une crise. Donc, qui est modèle ou pas, par le fait du développement biologique et cognitif, eh bien, l'enfant doit entrer en crise. Comment alors passer ce crise-là? C'est là que vous pouvez avoir raison qu'il faut un bon suivi, donc un bon exemple de vie de la part des adultes pour que la traversée d'une étape soit quand même constructive. C'est un peu ça. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en psychologie, une crise n'est pas quelque chose de négatif. A priori, non. C'est quelque chose de nécessaire. Il faut passer par là, par cette tension intérieure et extérieure pour grandir psychologiquement. C'est ça.
Merci beaucoup, Papa André. C'est la fin. Un dernier mot.
Merci à tout le monde. Alors, la crise, je le disais déjà, la crise en psychologie n'est pas quelque chose de négatif. C'est une voie obligée pour pouvoir grandir. Alors, changer de modèle de comportement au profit d'un autre modèle de comportement selon son âge, c'est ça la croissance. Et dans la vie des couples, parfois, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes parce que nous ne sommes pas suffisamment attentifs que c'est une sorte d'interpellation que nous devons grandir, adopter de nouveaux modes de comportement et de pensée. Merci beaucoup. Pour qui pourrait appeler, qui veut appeler, si vous permettez, on peut appeler Papa André en composant le 082. 20 029 18, je vous remercie.
Merci, Papa André Tandala. Merci à vous, auditeurs, auditrices de Radio Maria. Merci d'avoir été nombreux à suivre et à participer à cette émission. Voici mon problème qui a abordé la crise du jeune âge adulte. On se retrouve le dimanche pour la rediffusion de cette émission et le mardi prochain, on va y revenir. Merci aussi à Moulopo qui était à la réalisation.
Payer de soi,
payer ensemble,
risquer de soi,
risquer ensemble,
chercher en soi,
chercher ensemble,
payer de soi, toujours risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Changer nos cœurs,
changer ensemble,
rester veilleurs,
rester ensemble,
marcher sans peur,
marcher ensemble,
changer nos cœurs, toujours rester veilleurs pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde.